France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait.
Transition écologique, on connaît les ambitions, les objectifs finaux en matière notamment d'émissions de CO2, de rapport à la biodiversité, d'équilibre des cycles de l'eau. Mais une question demeure brûlante, comment faire? Comment opérer au-delà de la surface un véritable tournant écologique? Comment jeter les bases d'une économie de mode de production et de consommation absolument nouveau? Cette méthode du changement, c'est le fil rouge de deux livres passionnants dont nous recevons ce matin les co-auteurs. Xavier Desjardins, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en urbanisme à Sorbonne Université, co-auteur de La Révolution obligée, réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis. Ça vient de paraître aux éditions Alary et vous l'avez fait paraître avec l'essayiste et haut fonctionnaire David Jez. À vos côtés, Razmi Kushayan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'Université Paris Cité, co-auteur de Comment bifurquer les principes de la planification écologique. Vous l'avez fait paraître aux éditions Zone avec l'économiste Cédric Durand. Et le point de force peut-être le grand point commun de ces deux ouvrages, c'est leur pluridisciplinarité. Razmi Kushayan, vous l'écrivez, c'était une nécessité d'écrire un ouvrage pluridisciplinaire sur cette question majeure. Pourquoi ?
La bifurcation écologique, c'est une affaire d'économie politique, mais ça suppose de repenser non seulement la structure productive et la consommation dans nos sociétés, mais ça suppose aussi de repenser tout le reste, et en particulier les modèles démocratiques qui sont les nôtres. Les démocraties parlementaires dans lesquelles nous sommes, et qui sont des régimes largement en crise, doivent être repensées de fond en comble pour pouvoir mettre nos sociétés sur les rails de la soutenabilité écologique. Et donc, c'est un ouvrage qui est coécrit en effet par un économiste et par un sociologue. On s'intéresse l'un et l'autre à la discipline de l'autre, et ça nous a permis de produire un livre qui est fondamentalement interdisciplinaire, mais c'est l'objet du livre lui-même qui requiert cette approche interdisciplinaire. C'est la soutenabilité elle-même, la bifurcation écologique qui le demande.
Xavier Desjardins, une question similaire. Au fond, vous analysez la méthode du changement, comment tracer le chemin qui doit nous mener, faire ces objectifs qu'on vient d'évoquer, et vous le faites avec un essayiste, haut fonctionnaire. Pourquoi vous êtes associé à lui, vous qui êtes géographe?
Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'en fait, la transition écologique en fait rend un peu obsolète certaines limites disciplinaires. On le voit dans tous les domaines. Un exemple très concret, par exemple dans l'urbanisme, on parlait beaucoup des sols, mais comme possibilité de développer sur le sol. Et maintenant, avec l'écologie, on s'intéresse par exemple à la dimension écologique du sol, réservoir de carbone, de biodiversité, etc. Et c'est des savoirs sur lesquels les urbanistes, il y a une vingtaine d'années, n'étaient pas du tout formés, par exemple. Donc effectivement, on voit bien la nécessité, l'écologie change tout, nos institutions, et très certainement aussi nos institutions du savoir et la façon dont on les a conçues il y a près d'un siècle maintenant.
Il y a quatre points très très forts, en tout cas il y en a peut-être même plus, mais moi j'en ai relevé quatre en particulier, quatre points forts entre ces deux ouvrages. Le premier, c'est le sentiment d'urgence. Le deuxième, c'est cette idée que le marché ne pourra pas tout, du moins seul, la technologie ne nous sauvera pas, et dernièrement, les consommateurs ne pourront pas tout faire par eux-mêmes. Et pour eux-mêmes, commençons peut-être par le premier point, ce sentiment d'urgence, Razmi Kushayan, comment il transforme les choses, comment il impose plutôt de repenser la transformation et la méthode de la transformation?
En réalité, on a 10 ans pour faire cette bifurcation écologique. Et en 10 ans, il faut doubler les investissements mondiaux dans les infrastructures vertes et dans les énergies vertes. Pour ça, il faut la puissance financière de l'État et notamment sa capacité à lever l'impôt. Le marché livré à lui-même, de toute évidence, n'y parviendra pas. D'ailleurs, si on observe ce qui s'est passé au cours des dernières crises du capitalisme, par exemple la crise du Covid ou la crise des subprimes, à chaque fois, c'est pas le marché lui-même qui s'est tiré du gouffre dans lequel il s'était plongé, mais c'est à chaque fois l'État qui a pris en quelque sorte les commandes de la situation et qui a opéré des transformations, par exemple pour sauver les banques ou pour congeler l'économie dans le contexte du Covid. Donc la puissance à la fois financière et la capacité de coordination de l'État est un prérequis pour réussir cette bifurcation écologique.
Xavier Desjardins, transformer en si peu de temps l'ensemble du champ économique, une grande partie du champ social, c'est du jamais vu, du jamais fait?
C'est du jamais vu, mais ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que, et avec d'autres, mais avec beaucoup ont montré que c'était techniquement possible. Parce que aussi, il faut se rassurer. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a les capacités d'investir? Est-ce qu'on a les moyens techniques, humains, etc.? Et la réponse est oui. C'est déjà quand même à mon avis, une bonne nouvelle à partager. La deuxième, c'est effectivement le chemin collectif de construire cette transformation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se donne? La place de l'État, la place du marché, les comportements individuels, etc. Et en fait, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est quand même il y a une diversité de chemins possibles, parce que vous avez dit, il y a tout un des répertoires d'actions, il y a de l'innovation technologique, de la sobriété, du changement industriel, etc. Et en fait, il faudra tout actionner, ça semble absolument indispensable de tout actionner dans les 10 ans, si on veut réussir ça. Mais je dirais les dosages respectifs de ces leviers peuvent être heureusement différents. Et en fait, c'est bien le débat démocratique sur lequel il devrait se poser. C'est-à-dire que la question, c'est pas transition ou pas, mais comment on y va. Et on voit qu'il y a des chemins assez variés et c'est fort heureux.
Razmik Echeyan, vous êtes d'accord vous, avec cette idée au fond que c'est techniquement possible? Cet optimisme traverse aussi votre livre, votre travail, votre pensée?
Oui, absolument. Des bifurcations de ce genre, il y en a déjà eu par le passé. On évoque notamment dans le livre les économies de guerre. Alors ça, évidemment, les économies de guerre, c'est pas un exemple à donner pour aujourd'hui, mais ça permet de réfléchir à des situations dans lesquelles les économies ont été restructurées extrêmement rapidement dans un contexte de guerre. Évidemment, il faut y mettre les moyens, il faut politiser l'économie, comme on le dit dans le livre, et il faut faire en sorte que la bifurcation écologique soit quelque chose de désirable pour la large masse des populations.
Alors vous montrez bien justement que le marché ne peut pas tout, la limite même de la pensée de certains économistes libéraux ou dits classiques, que les droits à polluer, que le marché à carbone ont plutôt globalement dysfonctionné ou montré leurs limites. Pourquoi vous attaquez-vous d'abord et avant tout au marché ?
Parce que le marché a fait la démonstration de son inefficacité et de son incapacité à réussir la bifurcation. En réalité, ce qu'il faut, c'est débattre collectivement des besoins qu'on veut continuer à satisfaire dans le contexte de la bifurcation écologique. Donc ça suppose une refonte du débat démocratique. Il faut que ce débat démocratique il soit sous critères environnementaux, c'est-à-dire qu'on peut pas évidemment déboucher sur des décisions qui soient consuméristes et productivistes. Et sur cette base-là, il faut entraîner tout le monde dans cette grande épopée, en quelque sorte, qu'est la bifurcation écologique, pour faire en sorte de réussir à mettre nos sociétés modernes sur les rails de la soutenabilité. C'est quelque chose de tout à fait possible, ça a déjà été fait par le passé, ces grandes restructurations des économies, et il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas encore une fois. Mais encore une fois, c'est vraiment la manifestation d'une volonté collective politique, institutionnelle et administrative qui doit se faire jour à cette occasion, et les mécanismes du marché livrés à eux-mêmes ne vont pas nous mettre sur les rails de la soutenabilité. La démonstration a été faite au cours des 20 ou 30 dernières années que ça ne réussira pas.
Xavier Desjardins, quelle place dans votre livre, même dans votre cheminement, occupe le marché ?
Je rejoins l'auteur, c'est sûr que le marché livré à lui-même n'y arrivera pas, ça je pense que c'est un consensus absolu. Enfin, je dirais, voilà, le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui nous emmène dans des impasses écologiques.
Vous lui donnez cependant une place plus importante.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans le dosage final, on y reviendra certainement, une place un petit peu plus importante. Et aujourd'hui, quand même, par rapport à il y a 10 ans, dans l'action publique, et en tout cas en Europe, mais dans pas mal de pays dans le monde, il y a quand même un changement considérable. Aujourd'hui, on a des objectifs à 30 ans, je dirais, de limitation assez massive de l'usage de beaucoup de ressources. Par exemple, sont fixés l'objectif pour l'Union européenne d'avoir le zéro émission nette en 2050. L'objectif aussi de réduction de l'artificialisation des sols. Objectif de réduction des produits phytosanitaires. Alors évidemment avec des modalités. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, le débat est peut-être moins sur ces ambitions. Enfin, on peut les rediscuter, mais déjà, elles sont fixées à long terme. Et c'est quand même quelque chose d'assez nouveau par rapport à il y a 15 ou 20 ans. Mais on voit bien que la grande difficulté est la crise agricole qu'on vient de connaître le mois dernier, la crise qu'on a connue en Allemagne l'an dernier sur les chaudières à gaz, etc. C'est toujours le même sujet. C'est quand ces grands objectifs rentrent dans la vie concrète des ménages, des entreprises, des collectivités locales. C'est le moment où ça coince. Donc en fait, c'est vrai que sur l'écologie, la question actuelle, c'est vraiment une question de mise en mouvement de la société et de l'économie. C'est vrai, parce que c'est véritablement là que ça coince et que peuvent se jouer des reculs. Et en plus, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie parce que les difficultés de mise en œuvre de la démocratie suscitent des colères et certains partis d'extrême droite utilisent ces colères pour les agréger, pour aller où, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elles les agrègent pour essayer de gagner des élections.
Et dans le même temps, Xavier Desjardins, ces grands objectifs que vous mentionnez, on peut parfois se demander à quoi ils servent. Est-ce qu'ils engagent même celles et ceux qui les fixent ?
Oui, en fait, ils engagent. La difficulté, c'est de trouver les modalités d'application. Et nous, c'est pour ça que dans le livre, on pense que la seule modalité d'application, c'est une modalité beaucoup plus décentralisée et négociée. Prenons un exemple. Un des exemples beaucoup discutés en France actuellement, c'est zéro artificialisation nette. La réduction de, voilà, dire que la surface occupée par l'urbanisation, d'une certaine manière, doit rester constante après 2050. Ça, c'est quand même un changement considérable dans l'histoire de l'urbanisme de fixer une telle limite au nom, justement, d'enjeux environnementaux. Mais ça coince énormément parce que ça suscite de très nombreuses résistances. Des élus locaux vont dire bah, comment je vais sauver mon école si j'ai pas le droit de créer un lotissement et donc d'urbaniser un petit peu. Et donc, on voit bien que là, la difficulté, c'est les mécanismes de financement des services publics qui sont pas adaptés à cet objectif écologique. De l'autre côté, des producteurs de maisons individuelles vont dire mais comment je vais faire? Des gens qui ont envie d'étendre l'entreprise vont se trouver dans des difficultés. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des objectifs, mais d'une certaine manière, on réfléchit pas tellement à la capacité de les mettre en œuvre, de les négocier, de les adapter. Et sur cet objectif, par exemple, on comprend tout à fait aisément que ça va pas être la même chose dans une zone littorale en très fort développement démographique comme dans l'Hérault, par exemple, que dans un département de la Haute-Marne qui perd des habitants depuis maintenant de nombreuses années. Donc, on voit bien que sur ces grands objectifs, on a besoin de trouver des modalités décentralisées, négociées, pour pas entrer dans les crispations que l'on connaît actuellement.
L'autre grand récit, Rasmi Kocheyan, c'est peut-être celui du consommateur. Au fond, il y a une part de la responsabilité qui reviendrait à celles et ceux qui consomment, et à travers leurs choix, à travers leurs arbitrages, pardonnez-moi, individuels, ils pourraient participer à cette transition écologique d'une façon importante. Est-ce que vous y croyez à ce discours?
C'est d'abord et avant tout une affaire de restructurer nos modèles productifs, et ça suppose de l'investissement massivement. C'est pas à l'échelle purement individuelle que les solutions vont être trouvées. Ceci dit, évidemment, les individus peuvent par leurs actions avoir aussi une influence sur l'évolution des sociétés. Le remplacement d'un régime alimentaire carné par un régime alimentaire végétarien, par exemple, a un impact de toute évidence sur donc ça c'est de l'écologie des petits gestes, mais de toute évidence c'est pas à ce niveau-là que ça va fondamentalement se jouer. Il y a un autre aspect au niveau individuel, c'est que le capitalisme est un système qui crée en permanence des besoins artificiels. Et en particulier par le mécanisme de la publicité qui colonise nos espaces publics à l'heure actuelle, ou encore par le mécanisme de l'obsolescence programmée, qui est un mécanisme bien connu désormais. La bifurcation écologique, ça suppose de réguler drastiquement la production de besoins artificiels par les deux mécanismes que j'évoquais là. Et par conséquent, tout se tient d'une certaine manière. Il faut réguler, je ne sais pas s'y interdire, mais réguler massivement la publicité, ou en tout cas certains types de publicité pour certains types de marchandises, ce qui permettra de limiter les besoins artificiels, de faire en sorte que la discussion démocratique sur les vrais besoins, les besoins réels, se tienne, et puissent mettre nos sociétés sur les rails de la soutenabilité. Donc d'une certaine manière, notre démarche de la bifurcation écologique, elle commence par une critique du capitalisme et une critique de la dialectique du productivisme et du consumérisme qui est inhérent à ce système capitaliste, particulièrement par le mécanisme de la publicité. Donc vraiment, tout se tient dans ce modèle-là.
Alors plongeons justement dans votre ouvrage, Rasmi Kocheyan. Il y a une idée centrale parmi d'autres, c'est celle de la planification écologique. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire le récit de cette idée? Comment est-ce que elle est, au fond, elle est née même, et d'où elle vient?
Alors, la planification, c'est une vieille affaire, pas écologique. Ça remonte au XXe siècle et il y a eu des expériences de planification aussi bien en contexte capitaliste qu'en contexte non capitaliste en Union soviétique. Mais toutes les expériences du XXe siècle de planification ont été productivistes. Ça, c'est tout à fait clair. Or, ce qu'il nous faut réinventer aujourd'hui, c'est de la planification, mais qui soit non productiviste. Alors, est-ce qu'on l'appelle décroissante? Est-ce que c'est de la décroissance matérielle? C'est une discussion à avoir. Mais en tout cas, il faut mettre nos sociétés sur les rails de la soutenabilité. Pour cela, il faut planifier, c'est-à-dire il faut politiser l'économie, mais il faut pas que ça se fasse dans un esprit qui est productiviste et consumériste. Donc, on peut s'appuyer sur des exemples passés, la planification à la française, la planification chinoise qu'on évoque dans le livre, on pourra peut-être y revenir. Il y a des exemples passés de planification qui nous sont utiles, mais en même temps, il y a une part d'invention ou de réinvention de la planification dans le contexte de la crise environnementale qui doit nous conduire à la fois à expérimenter, à théoriser et à débattre, non seulement à l'intérieur des universités, entre intellectuels, mais aussi avec les mouvements sociaux, évidemment.
Qu'est-ce qu'il s'agit de réinventer fondamentalement? Ce sont d'abord les objectifs que l'on fixe qui sont non productivistes, ou plus encore les moyens pour les atteindre?
Les deux. Les objectifs eux-mêmes, et ça c'est le dialogue avec les scientifiques qui nous disent où en sont les écosystèmes et jusqu'où on peut aller. Mais il faut par exemple aussi réinventer l'administration. Le néolibéralisme, 30 ans de néolibéralisme, c'est la construction de l'impuissance de l'État et de l'impuissance de l'administration en particulier. Or, pour planifier, il nous faut une administration qui soit capable de fixer des objectifs et de vérifier que ces objectifs soient tenus par les entreprises si on admet qu'il y aura encore du marché dans une phase de transition en tous les cas. Or, à l'heure actuelle, l'État s'est rendu impuissant, comme je l'ai dit, et par conséquent, il faut aussi reconstruire ou penser à reconstruire une administration efficace. Ça a existé par le passé. L'administration française de la planification de Jean Monnet, au sortir de la Deuxième Guerre, la planification qu'on appelle indicative, reposait sur le fameux commissariat au plan et avec une administration qui était extrêmement efficace et qui a mis la France en ordre de bataille après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des choses qui ont existé par le passé, évidemment, qui n'existeront pas à l'identique, qui supposent d'être écologisées, mais il n'y a rien de totalement utopique dans ce qu'on raconte.
Xavier Desjardins, vous parlez un peu moins de planification écologique cependant. Ça vous paraît être une méthode inefficace? Comment vous la jugez?
Il me semble que c'est une méthode indispensable. Il faut absolument fixer des objectifs de long terme et effectivement, on peut utiliser le mot de planification pour le mettre. La discussion, à mon avis, c'est la part dans cette planification du central, du national, de l'européen et du local. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'avec les enjeux écologiques, je vous disais tout à l'heure, on est obligé d'articuler du changement de comportement individuel, du changement de système, par exemple la mobilité se déplacer moins, du changement de système parce qu'il faut de l'offre de transport collectif, des pistes cyclables, d'autres systèmes de déplacement automobile, et puis aussi une part d'innovation technologique, parce qu'on voit bien, voilà, les voitures vont changer, les vélos aussi vont changer, etc. Donc il y aura une part d'innovation technologique. Et quand on planifie, par exemple, voilà, l'horizon de mobilité, il faut jouer sur ces trois ingrédients, mais d'une certaine manière, on ne sait pas exactement comment vont arriver les innovations technologiques, à quel moment, à quelle vitesse elles vont se déployer. Et d'une autre manière, on sait très bien que ça va être différent dans le cœur d'une grande agglomération que dans une zone de montagne. Et donc, ce qu'il faut à la fois, c'est avoir ces objectifs très, très de long terme, qui sont absolument indispensables si on veut de réduction, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre fixées, mais se donner des modalités d'application qui soient souples pour intégrer l'innovation et contextualiser. Et donc, pour nous, voilà, c'est à la fois, je dirais, une dialectique, enfin, entre ces deux échelons. Et toute la difficulté, et effectivement, là, il y a un véritable effort pour intellectuel, pour l'administration, etc., c'est de trouver les modalités de suivi et les éléments de mesure, en fait, de ces évolutions locales. Et ça, il y a quelques éléments qui sont sur la table, mais il y a encore du travail intellectuel à fournir, parce qu'effectivement, si on différencie les trajectoires de transition écologique selon les territoires, il faut pouvoir le mesurer, et puis pouvoir sanctionner les territoires qui ne le font pas, parce que parfois, la décentralisation est jugée comme un moyen de laisser les territoires faire ce qu'ils veulent. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir un cap clair, mais des modalités d'application, enfin en tout cas dans le livre ce qu'on défend, des modalités d'application extrêmement adaptées au contexte locaux.
Razmik Kocheyan, qui organise concrètement cette planification? Qui la pense? Et puis dans un second temps, qui la met en œuvre?
Tout le monde, d'une certaine manière. Évidemment, il faut la force propulsive de l'État et de l'administration, mais le mécanisme de décentralisation, recentralisation que vous évoquiez est quelque chose à quoi on est tout à fait sensible dans le livre. Alors, c'est peut-être énoncé différemment, mais il est tout à fait clair qu'une décentralisation maximale dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de la planification écologique est souhaitable, mais il y a en même temps une recentralisation parfois qui est nécessaire pour les grands choix d'investissement, par exemple, pour la transformation de la matrice productive de nos économies. Ça peut pas être purement décentralisé, même s'il peut y avoir des débats à l'échelon décentralisé. Il faut que ça recentralise, et en particulier il faut une administration qui soit efficace, qui à la fois mène le débat, fixe des objectifs et fasse donc bifurquer nos économies. Mais donc, c'est l'affaire de tout le monde, évidemment. Il n'est pas du tout question de dire que c'est purement l'État, les leviers de l'État ou les appareils d'État qui vont être à la manœuvre.
Xavier Desjardins, sur ce point, sur la méthode de gouvernance d'une telle planification?
Aujourd'hui, c'est l'implication citoyenne. Il y a eu des exercices de conventions citoyennes sur le climat, par exemple en 2019, ils ont eu leurs limites, mais j'ai trouvé quand même plutôt très intéressant cette élaboration citoyenne. Ce qu'on voit aujourd'hui, quand on est, voilà, parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, pas mal d'objectifs ont été fixés, on est au moment de la mise en œuvre. Et d'une certaine manière, il faudrait des conventions citoyennes, de la mise en œuvre des transitions, parce que, en fait, on connaît mal. Je vous donne juste un exemple. Zone à faible émission dans les villes. Alors, c'est pas directement lié d'ailleurs à la lutte, c'était plutôt pour la qualité de l'air. Enfin, c'est la transition écologique. On dit qu'on veut moins de voitures polluantes qui rentrent dans les villes. Objectif qui était soutenu par énormément de gens. Effectivement, dans la mise en œuvre, c'est compliqué parce qu'il y a des artisans qui ont des vieilles voitures, ça coûte cher d'en acheter une nouvelle, etc. Et pour certains ménages, il y a des difficultés ponctuelles qui se relèvent dans la mise en œuvre de cette mesure. Et au nom de ces difficultés ponctuelles, certains veulent tout balancer en disant « mais c'est pas possible, c'est une écologie de bobos, c'est que pour les riches, etc. » Et donc jeter, je dirais, le bébé avec l'eau du bain. Là, on voit bien que sur ce type de sujet, si on veut pas faire des grandes promesses qui sont après balayées d'un revers de manche avec des généralisations abusives, faut un suivi très précis, évidemment un suivi technique, scientifique, mais aussi un suivi citoyen de la mise en œuvre de ces transitions. Donc on voit bien, voilà, c'est des modalités d'implication. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, la part des citoyens, à mon avis, sont relativement bien intégrés, je dirais, en amont, mais c'est peut-être plutôt l'aval, dans la mise en œuvre, qui sont, je dirais, grandement absents et dont il faut penser. Et ça me paraît absolument fondamental de penser non pas la transition écologique comme une forme de limitation des capacités individuelles d'agir. C'est comme ça que c'est beaucoup vendu, dit dans les médias. Mmh. Ah, l'écologie, ça va vous empêcher d'utiliser votre voiture, de manger ce que vous voulez, de faire, etc., etc. Non, il faut complètement renverser l'élément et démontrer comment, au contraire, l'écologie, ça renforce les capacités d'agir. Sur l'alimentation, c'est pas simplement changer son alimentation, mais par exemple, les citoyens aujourd'hui sont grandement absents des débats sur l'évolution de la production agricole dans leur territoire. Ça relève de complètement d'autres logiques, de logiques à la fois capitalistes et bureaucratiques quand il s'agit de la politique agricole commune. L'écologie, si c'est expliquer aux gens, bah écoutez, réinvestissez la scène du débat local parce que vous pourrez décider localement discuter de à la fois des productions qui vont jouer sur vos paysages, etc., mais aussi ce qu'on va offrir dans les cantines collectives. Ça montre bien, et c'est comme ça qu'on peut montrer, et à mon avis qu'on peut réussir la transition écologique, c'est si on fait la démonstration que la transition écologique est en fait un levier d'approfondissement des capacités d'agir, c'est-à-dire de la démocratie.
Razmik Kocheyan, est-ce que pour vous, la bifurcation, ou du moins la transition écologique, a commencé en France ?
Pas encore tout à fait. Il y a des mouvements sociaux qui le réclament, mais il est tout à fait clair qu'on en est encore loin. D'ailleurs, nous, on parle plus volontiers de bifurcation que de transition. La transition, ça laisse entendre d'une certaine manière que tout ou presque va rester en l'état et qu'on va simplement changer le système énergétique carboné par un système énergétique basé sur les renouvelables. La bifurcation, c'est une restructuration beaucoup plus fondamentale qui passe par la restructuration de l'appareil productif, mais aussi par le fait de repenser nos institutions en conséquence. Et par conséquent, on n'y est pas encore tout à fait, mais il est clair que les mouvements sociaux le réclament et que ça va arriver dans les années qui viennent, je l'espère.
Merci à tous les deux, Razmik Kocheyan, Xavier Desjardins. On va poursuivre cette discussion tous les trois à partir de 8h20.
France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
Suite de notre discussion sur la transition, la bifurcation écologique avec Xavier Desjardins. Il est professeur en urbanisme à Sorbonne Université, co-auteur de La Révolution obligée. Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis. Ça vient de paraître aux éditions Alary et cela est co-écrit avec David Jez. À ses côtés, Razmik Kocheyan, sociologue à l'Université Paris Cité, co-auteur de Comment bifurquer les principes de la planification écologique. Cela vient de paraître également aux éditions Zone, et cela est co-écrit avec Cédric Durand. On parle depuis le début de notre entretien de planification écologique, et certains nous diront que pourtant cette planification existe déjà, puisqu'elle est le fil rouge sans doute de ce quinquennat en matière écologique du point de vue du gouvernement. Une planification qui se structure autour de plusieurs axes, notamment en finir avec les voitures thermiques, rénover les passoires énergétiques, promouvoir une alimentation plus végétale, protéger les sols, les forêts, j'en passe. Est-ce qu'au fond, Xavier Desjardins, cette planification écologique que vous appelez en partie de vos voeux existe ou existerait déjà ?
Elle existe au sens où des objectifs sont posés. Et effectivement, ils ont été posés au niveau européen et au niveau national depuis 2022. Effectivement, le secrétariat général à la planification écologique a beaucoup fait un travail assez approfondi d'orientation sectorielle, effectivement, pour poser des objectifs. Là où elle n'est pas encore dans les faits, d'une certaine manière, c'est dans la mise en œuvre, dans la transformation. Et peut-être aussi, voilà, on est comme tétanisé sur la ligne de départ, on pourrait dire ça comme ça. On est sur la ligne de départ, l'horizon est fixé, mais on a du mal à commencer. Et je pense que c'est ça qui caractérise l'instant actuel.
Mais ça correspond pour vous à de la planification, le seul fait, j'allais dire, de fixer des objectifs à long terme. Est-ce qu'il ne faut pas y associer les investissements publics nécessaires, la structuration en matière de gouvernance et tout ce qui devrait accompagner une planification telle qu'on la conçoit historiquement ?
Oui, tout à fait, c'est ça qui manque, c'est-à-dire qu'on a des objectifs et que des objectifs, des zéros, etc., ça fait pas un projet de société. Et là où la délibération doit se poser aujourd'hui, c'est comment embrayer ce projet de société. Et en fait, il me semble qu'il y a un élément qui est particulièrement manquant, c'est que aujourd'hui la transition écologique, c'est surtout des normes sur les comportements ou le fonctionnement des entreprises. Voilà, des normes pour l'individu quand il se déplace, des normes pour les entreprises de tout type sur les polluants, des modes de travail, etc. Et c'est absolument pas considéré comme un projet productif. Alors qu'en fait, l'écologie, c'est une transformation des manières de produire, mais c'est un projet productif. Pour l'agriculture, c'est aller vers la transition sociale écologique. Pour la mobilité, certes, si demain on utilise un petit peu moins de voitures, il y en aura toujours, mais par contre, il y a une mutation de l'industrie automobile. Mais si on utilise plus le vélo, bah, il se serait peut-être temps de s'intéresser, par exemple, à l'émergence d'une industrie européenne du vélo, qui est aujourd'hui grandement absente. Et il manque, en fait, fait ce volet productif qui peut être beaucoup plus engageant. Tout à l'heure, vous posiez la question du mot de décroissance. Le mot décroissance, d'une certaine manière, nous on l'a mis de côté dans le livre. On n'a aucune opposition comme ça de principe avec cette notion. Mais décroissance, on le fixe par rapport au produit intérieur brut, l'indicateur-là. Donc nous, comme on dit que cet indicateur ne doit plus être central, je dirais que se poser la question de croître ou décroître vis-à-vis d'un indicateur qui n'est plus central, voilà, nous, c'est pour ça qu'on le met de côté. Mais plus globalement, en fait, je pense que ce mot, même si c'est absolument pas ce que ça veut dire dans le débat intellectuel sur la notion de décroissance, est beaucoup vu par les gens comme une forme de désarmement productif. Et à mon avis, c'est une erreur fondamentale. Et les gens, voilà, ça fait extrêmement peur aux gens. Et je pense qu'il faut simplement dire, voilà, c'est produire autrement, selon d'autres modalités, mais que ce chantier de production écologique, en fait, peut être absolument enthousiasmant, parce qu'il va y avoir de l'ingénierie, de l'innovation technologique, il va y avoir de nouveaux métiers, et une occasion aussi de refonder, de recréer une industrie, une agriculture et des services en Europe tout à fait efficaces et fournisseurs d'emplois.
On va revenir sur les récits, les discours qui devraient ou qui doivent accompagner la transition écologique. Un instant tout de même sur cette idée de planification avec vous, Rasmik Cheyan. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la planification telle qu'elle est pensée par l'exécutif pour qu'elle rencontre effectivement la planification telle que vous l'imaginez?
Aujourd'hui, dans les sociétés de marché, la définition et la satisfaction de vos besoins dépendent largement de votre pouvoir d'achat. Plus vous avez de pouvoir d'achat et plus vous allez pouvoir satisfaire des besoins qui, pour certains, seront aliénants, seront polluants, seront insoutenables, etc. À l'inverse, si vous manquez de pouvoir d'achat, certains de vos besoins essentiels ne seront pas satisfaits. Des besoins de santé, de nourriture, d'alimentation, etc. La planification écologique, véritablement, pour nous, c'est un gouvernement par les besoins qui consiste à partir d'une définition démocratique des besoins dans la limite des écosystèmes, j'insiste sur ce point, les écosystèmes qui sont notamment discutés, définis par les scientifiques, et à partir donc d'une définition collective, démocratiquement maîtrisée des besoins individuels et collectifs, et ça forcément, ça débouche sur des formes d'égalitarisme plus importantes que si on laisse la satisfaction des besoins aux critères du pouvoir d'achat et du marché. Et donc fondamentalement, pour revenir à la question des récits qu'on va évoquer plus tard, en fait, via les besoins, nous ce qu'on cherche c'est à connecter la question de la sobriété, de la soutenabilité avec la question de la justice sociale.
Là, mais en quoi est-ce que cela remet en cause cette idée de planification? Comment est-ce qu'on organise cette bifurcation, cette planification écologique en fonction des besoins? Est-ce que l'idée même de besoin est objectivable?
Elle est objectivable, oui, par toutes sortes de mesures. Un certain nombre de calories par jour, c'est indispensable pour qu'un organisme humain survive. Donc ça, c'est objectivable. Et puis, c'est objectivable par la délibération démocratique. Par exemple, nous, ce qu'on préconise, c'est l'élargissement de certains services publics ou l'invention de nouveaux types de services publics. Par exemple, un service public de la réparation pour que les marchandises durent plus longtemps plutôt que d'être dans la civilisation du jetable dans laquelle nous trouvons. Et donc ça, c'est tout à fait une discussion qu'il faut avoir. Et les besoins, ils sont objectivables par la délibération démocratique. Donc ça, c'est tout à fait clair. Ça ne veut pas dire que les besoins n'évoluent pas, ils évoluent évidemment. Toute l'histoire de l'humanité montre qu'il y a certains besoins qui sont transhistoriques d'une certaine manière, qui sont probablement ancrés en biologie, même si ce n'est peut-être pas le terme qui convient, et d'autres besoins qui évoluent en permanence. Donc cette délibération démocratique sur les besoins, c'est quelque chose qu'il faut renouveler périodiquement, et la planification écologique, c'est fondamentalement ça.
Alors la planification écologique, pourrait-on se dire, elle existe déjà en France, mais elle existe sans doute un peu plus qu'ailleurs et au carré en Chine, dans un exemple que vous abordez très très largement dans votre ouvrage, Xavier Desjardins. Qu'est-ce que l'exemple chinois nous enseigne en matière de planification écologique, même si ce terme-là n'est pas exactement employé en Chine?
Non, en Chine, le terme, enfin la traduction qu'on utilise, c'est le terme de civilisation écologique. Et effectivement, c'est un État extrêmement planifié, puisque c'est un État autoritaire qui devient progressivement, en ce moment malheureusement, totalitaire. En fait, ce que nous apprend la Chine, c'est qu'elle aussi fixe des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2060, donc 10 ans après les objectifs que s'est fixé l'Union européenne. La Chine n'est absolument pas aujourd'hui un modèle en termes de politique écologique. Il faut que ce soit absolument clair. Enfin, par exemple, on sait qu'ils ouvrent en Chine 2 centrales à charbon sont autorisées en moyenne par semaine. Donc effectivement, on est très loin du compte en termes de réduction.
Vous n'êtes pas ici promoteur du modèle chinois.
Non, absolument pas. Ni pour ses résultats écologiques, ni pour les conditions de vie et les libertés civiles qui sont accordées aux gens. Donc on n'est absolument pas les promoteurs de ce modèle. Mais ce qui est intéressant dans la civilisation pourquoi ça marche en Chine, le concept de civilisation écologique? Parce que il y a un volet productif, un volet politique et un volet géopolitique. Un volet productif, c'est qu'en fait, la Chine veut être, avant d'être une puissance écologique veut être la puissance veut être l'atelier de l'équipement écologique du monde. Ils produisent nos voitures électriques de demain, les batteries, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques. Pas tout, évidemment, mais une grande partie, nos vélos, un ensemble des besoins voilà dont on va avoir énormément besoin en Europe et en Amérique du Nord pour la transition écologique sont fabriqués en Chine.
Donc c'est ce que vous mentionniez plutôt, c'est la réorganisation de l'appareil productif autour de ces objectifs écologiques.
Voilà, c'est ça. En fait, ils réorganisent leur appareil productif pour produire ce que notre transition écologique exige, d'une certaine manière. Et ça, c'est extrêmement intelligent. Alors, effectivement, les Chinois, d'une certaine manière, eux, nous, on a été déstabilisés par la mondialisation. On a très peur de la transition écologique pour déstabiliser nos classes moyennes, nos industries, notre agriculture, etc. Et en Chine, voilà, ils ont pris le pli de la mondialisation il y a 30 ans. Et aujourd'hui, avec la transition écologique, d'une certaine manière, ils paraissent être les nouveaux gagnants. Donc c'est à la fois un projet productif, c'est aussi un projet géopolitique. Parce que la Chine, en faisant cette transition de l'appareil productif, essaie de maîtriser les chaînes d'approvisionnement des matériaux les plus utiles à la transition. Le lithium, le cobalt, il y en a qui sont sur ces terres, mais il y en a d'autres qui sont dans des pays avec lesquels elle fait des liens particulièrement étroits, la République du Congo, la Bolivie, etc., où elle achète, elle maîtrise voilà, ses chaînes d'approvisionnement. Et troisièmement, pour le régime chinois, l'écologie est un moyen de renforcement du contrôle des entreprises, des citoyens, puisqu'il y avait un crédit social en Chine, on a une forme de note publique voilà, qui est donnée, et maintenant à cette note s'ajoutent des critères environnementaux. Donc ce que montre la Chine, c'est comment en fait elle a complètement inclus l'écologie dans son projet national. Alors que nous, la comparaison, en Europe, on voit bien que l'écologie, c'est la chose qui va nous embêter, c'est la chose qui va embêter l'équilibre d'une exploitation agricole, c'est la chose qui va embêter un ménage qui peut plus aller au centre-ville en voiture, etc. C'est jugé comme une limite, alors que là, ils ont fait cet effort intellectuel. D'ailleurs, les Américains, sur évidemment un tout autre modèle de développement et un autre modèle politique, ont fait la même intégration de l'écologie dans leur projet national, d'une certaine manière.
Est-ce qu'on arrive déjà, Xavier Desjardins, à mesurer l'efficacité d'un tel modèle chinois ?
D'un point de vue écologique, c'est difficile. Et puis bon, les données chinoises ne sont pas toujours très fiables. On peut mesurer son efficacité, dans la dépendance qu'il nous crée sur un ensemble d'approvisionnements tout à fait économiques. Alors là, c'est extrêmement clair quand vous voyez la balance commerciale européenne. Voilà. Quand on sait que l'Europe s'est donné pour objectif de maîtriser en 2030 10% de son approvisionnement en matériaux dits critiques, c'est-à-dire par exemple le lithium. On est à 10%, c'est un objectif. Donc ça vous dit bien qu'on est extrêmement dépendant d'autres pays dans le monde, dont la Chine.
Rasmi Kecheyang, comme cela vient d'être sous-entendu, est-ce qu'au fond, la première force du modèle chinois en matière écologique, c'est d'avoir créé un récit véritable pour la nation tout entière ?
Oui, très certainement. Alors nous aussi, on parle de la Chine. C'est intéressant d'ailleurs de constater cette convergence. Nous, ce qui nous a beaucoup intéressé dans le modèle chinois, c'est le modèle de planification qui est mis en place par les réformes capitalistes de Deng Xiaoping pendant une trentaine d'années, avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013. Et le maître mot de ce modèle de planification, c'est expérimentation. La Chine, c'est un pays évidemment immense, avec des régions qui, elles aussi, sont immenses. Et la manière dont fonctionne la planification chinoise, c'est que dans une première phase du plan, de la planification, du cycle politique de planification, il y a une phase de 2 ans qui est une phase expérimentale, où les régions ont pas mal de latitude pour expérimenter des modèles de développement qui sont les leurs. Donc il y a un encouragement à l'expérimentation, à la décentralisation, et ça fait la connexion avec l'autre partie de notre discussion. Et puis à partir de la deuxième, troisième année du plan, ces expérimentations, elles font l'objet de bilans, et puis pour certaines, celles qui marchent, on accélère, et pour d'autres, celles qui n'ont pas marché, on y renonce. Donc vous avez la combinaison d'une approche cyclique de la planification, avec des plans quinquennaux, ça c'est très traditionnel dans les modèles de planification du XXe siècle, mais avec quelque chose d'assez profondément décentralisé.
Est-ce que l'expérimentation est encore possible aujourd'hui quand il y a urgence, c'est le point de départ d'ailleurs de vos livres à chacun, il y a urgence et on a peut-être moins le temps par conséquent d'expérimenter, d'essayer de tenter des choses nouvelles.
Alors c'est de l'expérimentation sous contrainte. Il y a des contraintes qui sont des contraintes environnementales, des contraintes de justice sociale. C'est comme ça que se passait aussi la planification indicative à la française dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc il faut laisser toute latitude possible à l'échelon le plus décentralisé, mais en même temps faire en sorte que cet échelon décentralisé expérimente des modèles de développement et des modèles démocratiques de délibération de manière aussi libre que possible, mais dans les contraintes, évidemment, d'une planification générale. En réalité, dans la situation chinoise, aussi bien qu'en France, dans l'après-guerre, vous avez un emboîtement des plans. Vous avez des plans régionaux, mais qui dépendent d'un plan plus général qui est délimité à l'échelon national. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de l'Union européenne, il faut une planification européenne ? C'est un sujet qu'il faudrait aborder.
Vous mentionnez l'Europe. Comment est-ce que vous analysez vous-même, Rasmi Kecheyang, le discours, le récit européen, le métadiscours européen en matière de transition écologique ? écologique, est-ce qu'il existe d'abord et ensuite, est-ce qu'il est capable de porter ses fruits?
À mon avis, le discours existe, mais pas grand-chose d'autre, d'une certaine manière. Comme vous le disiez, c'est méta-méta, d'une certaine manière. C'est bon. Pour faire de la planification, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une administration qui soit efficace. Et qui soit une administration qui fixe des objectifs et qui soit capable de vérifier que ces objectifs sont atteints. Et ça, ça vaut y compris dans une économie de marché. Si on fixe des objectifs à des entreprises, eh ben, il faut que d'une manière ou d'une autre, on vérifie que l'argent va dans des endroits qui nous intéressent et que les objectifs à la fois ne soient pas trop vagues, et qu'on puisse être en capacité d'aller vérifier, donc que l'administration, en l'occurrence européenne, puisque c'est ça le débat, soit en capacité d'aller vérifier que les objectifs sont bien mis en œuvre par les entreprises en question. Il n'en est rien à l'échelon de l'Union européenne à l'heure actuelle. Donc cette capacité administrative, qui est véritablement la marque de fabrique de toutes les expériences de planification du XXe siècle, que ce soit en contexte capitaliste ou pas capitaliste, est quelque chose qui manque. Et en l'absence d'une administration efficace, avec la double fonction que j'évoquais, la connaissance, la fixation d'objectifs et la vérification, eh bien vous n'avez pas véritablement de planification. On en reste en effet au niveau des discours.
Xavier Desjardins.
Oui, c'est un discours, effectivement, qui est beaucoup plus vaste et profond que les discours qu'on peut produire aux États-Unis et en Chine sur l'écologie, parce qu'en Europe, il y a la décarbonation, mais il y a aussi des réflexions sur les sols, sur l'eau, etc. Donc, quand on regarde le discours, il est quand même très riche et il va dans un petit peu, voilà, très, très profond, on pourrait dire. Et effectivement, il a du mal à embrayer avec le réel, et je pense qu'il y a deux raisons pour ça. Déjà, il y a la première, c'est que l'Union européenne est un petit peu et même très contradictoire entre son volet législation environnementale et, par exemple, les accords commerciaux qu'elle peut négocier avec d'autres pays. Là, on a beaucoup parlé d'accords avec l'Amérique latine. Bon, ça pose évidemment un ensemble de soucis. Et puis, en fait, on voit bien aussi que ça re-questionne, je dirais, le projet initial de l'Union européenne et les transferts de compétences. Parce que l'Union européenne, ça a été beaucoup dit, le pacte vert, c'est beaucoup de normes sur la consommation. C'est des normes, c'est des catalogues de normes, voilà, sur les avions, les moteurs qu'ils doivent avoir, les bateaux, etc. Enfin, c'est absolument, dans notre livre, on en cite quelques-unes, mais on s'arrête parce qu'il faut pas quand même étourdir trop le lecteur. Mais c'est une accumulation de normes. Et pourquoi? Bah, parce que simplement, les politiques environnementales ont été transférées comme compétences à l'échelon européen. Le volet productif est beaucoup plus faible parce qu'en fait, voilà, les politiques industrielles n'ont jamais été transférées à l'échelon européen. Donc on voit bien que la question écologique re-questionne aussi, je dirais, le partage de compétences entre l'État et l'Union européenne. Et une grande partie des faiblesses du pacte vert s'explique, je dirais, par la conception originelle de l'Union européenne. Et aussi, on pourrait dire une autre faiblesse, et nous, dans notre livre, on plaide, par exemple, pour un endettement commun au niveau européen pour financer la transition écologique, parce qu'effectivement, il y a des investissements extrêmement nombreux. Et ça nous paraît absolument nécessaire que, d'une certaine manière, ce soit la même instance qui fasse les normes, qui fasse ce qui nous embête, d'une certaine manière, que celle qui fasse ce qui nous permet de faire cette transition. Donc nous, on plaide résolument pour cet approfondissement du volet productif via un endettement commun européen. Parce que, et c'est mon dernier point sur la question du pacte vert, aujourd'hui on est quand même à un moment extrêmement critique de ce pacte vert, puisqu'en fait, il y a un peu trois options qui sont sur la table. Au nom des difficultés qu'il crée, une grande partie des gens veulent le mettre, je dirais, de côté et l'abandonner, purement et simplement. Il y a une partie des gens au centre et à la droite en Europe qui demandent plutôt sa mise sur pause. Dans le livre, nous défendons clairement le fait que l'arsenal normatif qui est mis en œuvre, il faut le garder. Au contraire, il faut s'appuyer dessus, je dirais, pour discuter des modalités de sa mise en œuvre, voilà, productive, sociale, etc. Parce qu'il nous semble que seuls ce pacte, ces éléments de normes sont absolument insuffisants, mais qu'en fait, elles sont une bonne base, finalement, de discussion pour enclencher véritablement la transition écologique.
Il y a une autre et dernière, peut-être, tension forte qui traverse vos livres à tous les deux, c'est peut-être celle qui vient frotter l'urgence d'un côté et le mode de gouvernance de l'autre. Razmik Kocheyan, comment est-ce qu'on empêche, au fond, la dérive autoritaire face à l'urgence? C'est vrai que l'on pourrait se dire, la démocratie prend du temps, la délibération elle-même nécessite un temps minimal, un temps critique. Or, face à l'urgence, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des choses rapidement?
Bah, par le mécanisme de décentralisation et de recentralisation qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut véritablement ancrer la bifurcation écologique dans une pratique démocratique renouvelée, vous l'avez dit également, pour une raison simple, c'est que cette bifurcation, elle ne se fera pas sans les gens. Or, pour qu'elle se fasse avec les gens, il faut évidemment qu'ils aient voix au chapitre dans la définition des besoins individuels et collectifs, des services publics.
L'exemple chinois montre bien qu'elle peut se faire sans les gens, au moins dans la délibération, par exemple.
Voilà, alors c'est pas évidemment cet aspect-là du modèle chinois qui nous intéresse l'un et l'autre, c'est au contraire les aspects d'efficacité, d'administration, etc. Donc il est tout à fait évident que si on doit construire un récit collectif pour aller vers des sociétés qui sont soutenables sur le plan écologique, il faudra entraîner tout le monde et donc mettre en... C'est pas du tout incompatible, je pense qu'on peut tout à fait aller vite, prendre des mesures par exemple qui concernent l'investissement dans la structure productive et sa mise en conformité avec l'environnement, et en même temps coupler ça avec des pratiques démocratiques renouvelées à l'échelon le plus décentralisé possible, celui de la commune par exemple.
Xavier Desjardins, la démocratie peut être efficace en matière de transition ou de bifurcation ?
Absolument, elle peut être efficace et ça demande à réviser nos institutions. Sur la question de la décentralisation telle qu'on la connaît en Europe, bon, très variable d'un pays à l'autre, parce qu'il y a des pays beaucoup plus décentralisés comme l'Allemagne, mais partout, c'est donner la charge des collectivités de fournir des services publics, de les adapter aux citoyens. Et là, en fait, il y a une nouvelle page de la décentralisation à écrire, c'est donner la capacité aux territoires d'énoncer leur parcours de transition écologique et de la négocier, de la contractualiser avec l'État et l'échelon européen. Donc en fait, c'est une refondation aussi des mécanismes de décentralisation. C'est pas la même. On appelle à une décentralisation, évidemment, mais une décentralisation complètement repensée pour les enjeux écologiques.
Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages, Xavier Desjardins. Vous avez fait paraître La Révolution obligée, réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis, coécrit avec David Jaez, et cela vient de paraître aux éditions Alary. Et Rasmi Kecheyan, vous avez fait paraître un ouvrage intitulé Comment bifurquer les principes de la planification écologique, coécrit avec Cédric Durand, et cela vient de paraître aux éditions Zone. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin au micro de France Culture.